Voilà, nous allons lire les premiers versets de la paracha de Shlachecha. Et comme vous le savez, l'épisode principal de cette paracha, c'est ce qu'on connaît sous le nom de le récit de la faute des explorateurs, Meraglim, puisque Moïse va, sur l'intervention de Dieu et avec son accord, envoyer des espions. C'est le sens direct de Meragel. Ce sont des envoyés militaires pour espionner un pays que l'on s'apprête à conquérir. Il y a aussi un autre terme qui est employé, la tour de Taharetz, pour explorer le pays, mais ce nom de la tour a un sens différent. C'est de là que vient d'ailleurs le nom de Tayarim, les touristes. Je me souviens d'ailleurs, ça me revient en mémoire, la première année de ma Aliya, un Shabbat de Shlachecha, on est allé prendre visite au grand rabbin qui était à l'époque le Rav Nissim, si je me souviens bien, c'est un bracha. Et il avait traité la paracha de Shlachecha en nous interpellant les Tayarim, les touristes, en disant vous êtes venus à tout l'état pour explorer le pays, pour savoir que ça vaut la peine de faire ça à l'Iyam. Je veux dire d'ailleurs que les rolim contemporains, enfin depuis l'État d'Israël contemporain, ont un statut privilégié par rapport à ceux qui sont sortis d'Égypte. Mais c'est une autre question. En tous les cas, ces explorateurs ont ramené un rapport ambigu, ambivalent, en disant à la fois la vérité et son contraire. La vérité, avec quel problème on avait à se mesurer, mais en l'exprimant de manière telle qu'il n'y avait pas possibilité de surmonter ces difficultés. À peu près le discours que nous avons du gouvernement actuel depuis deux ans. Tout le monde connaît ces difficultés, mais la ridouche, la chose nouvelle dans le discours du gouvernement actuel par rapport aux autres gouvernements, par rapport à eux-mêmes lorsqu'ils étaient précédemment au gouvernement, c'est d'avoir tiré un bilan négatif, a priori. Alors, nul ne sait comment les péripéties, qui d'ailleurs deviennent de plus en plus urgentes, à partir de cette semaine d'ailleurs, par rapport à ce qu'on appelle la Cisjordanie, à Yehuda et Shomron, par rapport au Golan, nul ne sait ce que les événements politiques immédiats ou à court ou à plus long terme vont développer. Je ne vous ai jamais caché pour ma part que j'étais extrêmement pessimiste parce que on a un très grand défaut dans le peuple juif et en Israël, c'est qu'on est légitimiste de manière exagérée. Alors que tout le monde voit et l'enjeu et l'autre part la fragilité de la base légale du pouvoir actuel, moi j'aurais tendance à dire plus que la fragilité, mais c'est suffisamment clair. Et malgré tout, et tout le monde voit clairement ce qui risque d'arriver dans les conséquences des décisions prises, malgré tout, il y a une inertie qui est très étonnante, mais qui peut-être s'explique par là. Il y a un légitimisme outré qui mène à l'aveuglement. D'après la Torah, il y a la raison la plus profonde. Il n'y a pas seulement cela, ce qu'on pourrait exprimer en termes politiques ou sociopolitiques. Il y a quelque chose qui s'attache à l'identité d'Israël, depuis la sortie d'Égypte, à l'identité d'Israël terminant une histoire d'exil et inaugurant la période de réalisation des promesses de fin d'exil. C'est déjà arrivé, surtout dans le récit de la Torah, avec pour modèle la génération de la sortie d'Égypte, il y a quelque chose de beaucoup plus profond que tout simplement un aveuglement d'inertie pur et simple, impur et pas simple. Mais quoi qu'il en soit, un des épisodes auxquels se réfère ce pessimisme, si vous voulez, qui traverse tous les commentaires de ces récits de la Torah, c'est ce fameux épisode des explorateurs. Je veux mettre en évidence une des difficultés, je citerai des commentaires, on va étudier et rouge de, du Torah Touman sur une des sources de Rashi. Je vous ai fait photocopier la source elle-même dans la Gemara. Avant d'arriver à étudier sur texte la page qu'on vous a distribuée, prenons les premiers versets, et dès les premiers versets, on s'aperçoit que tout se passe comme si Moïse savait à l'avance quel serait le rapport négatif de ces explorateurs. Et c'est, comment dire, étonnant que Moïse ait pris sur lui le risque de rendre, légal le rapport des explorateurs, puisque c'est à cause du rapport de ces explorateurs que la réaction du peuple a été. Imaginez qu'il y a un référendum actuellement et que ce soit les explorateurs qui fassent leur rapport devant les autorités compétentes, comme si les autorités compétentes avaient besoin d'un rapport. Enfin, c'est une autre histoire. Et que la réaction du peuple sur la réaction qu'il y a eu au rapport des explorateurs. Un yéouch, je ne sais même pas s'il y a en français un terme traduit yéouch. C'est plus que désespoir, parce que désespoir, c'est une réaction affective qui n'est pas éclairée, qui n'est pas motivée par une connaissance, un diagnostic de situation. Yéouch, c'est renoncement, plus un renoncement désespéré, mais c'est plus renoncement que simplement le désespoir. Et on ne peut pas le mettre en évidence le fait que ça transparaît à la lecture des journaux et des médias, que ce soit la radio ou la télévision. Il y a déjà un renoncement a priori. Et les voix qui s'élèvent pour, comment on peut dire en français, mettre en garde, sont des voix très, très très faibles, et en général les voix de personnes qui, lorsqu'elles étaient au pouvoir, ont préparé la situation actuelle, c'est-à-dire, pour dire les choses enfin claires, les gouvernements précédents n'ont jamais envisagé que les territoires en question soient Eretz Israël, et dans le résultat, c'est qu'il va falloir les donner aux Arabes. Que ce soit les Syriens dans le nord, les Égyptiens dans le sud, les Jordaniens à l'est et les Palestiniens en Eretz Israël même. Et finalement, la responsabilité lointaine commence à la génération de pionniers eux-mêmes. Donc voilà l'analogie avec la génération sortie d'Égypte. 10 sur 12 chefs de tribus, 10 sur 12 représentants d'Israël, ont donné un rapport négatif dans une situation invraisemblable, puisqu'il s'agissait des rescapés de la sortie d'Égypte, de ceux-là qui avaient eu le courage de suivre Moïse, alors que les 4/5 du peuple n'ont pas suivi Moïse. Et donc c'est chez les sionistes de l'époque que ce yéouch est apparu. Mais, à quel point l'analogie est grande. Et nous avons une petite note de Rashi qui nous montre. Bon, la question que je vais essayer d'aborder, c'est Moïse, sachant cela, comment se fait-il qu'il est non pas provoqué, non pas laissé faire, mais il est légalisé la situation en question. Et nous allons voir ça à propos du nom de Josué, qu'on étudiera cela, puisque Josué s'appelait Oshéa, et qu'au moment de la nomination des explorateurs, Moïse a prié que Oshéa, Osé, soit gardé, mais Atzat Anragelim, du mauvais conseil des explorateurs. Donc apparemment, il devait s'y attendre. Il a changé son nom, Yehoshua, ce qui signifie, comme nous allons voir dans la référence, Yah Oshéa. On demande à Dieu que Dieu te sauve. Le Talmud ajoute, mais Atzat Anragelim, du complot des explorateurs. Donc s'il le savait, tout se passe comme s'il le savait. Comment se fait-il que je voudrais éclairer cette situation dans une situation très grave et encore plus aiguë de cette difficulté, parce qu'à la fin de sa vie, Moïse prophétise purement et simplement que vous allez vous rebeller contre Dieu. D'où le sait-il ? Non seulement d'où le sait-il, Dieu ne le révèle, mais qu'en est-il de la liberté, est-ce qu'il y a une fatalité ? Comment comprendre cette fatalité de cette prédiction qu'après la disparition de Moïse, il n'y aurait cassure entre Israël et son Dieu ? Et c'est Josué, précisément le même Josué, qui va avoir fort à faire pour essayer de sauver en quoi que ce soit l'authenticité de la sainteté d'Israël dans la génération d'après la sortie d'Égypte. Bon, voilà un peu notre programme d'études. Mais d'abord les versets concernant les explorateurs eux-mêmes. Vayaver Hachem el Moshe el mot, et Dieu dit à Moïse, il adressa à Moïse en disant, Shlach lecha anashim, shlach lecha, envoie quant à toi, pour toi. Et tous les commentateurs ont mis cela en évidence, c'est la décision est entre les mains de Moïse. Shlach lecha, ça veut dire si tu le juges nécessaire, si tu le juges bon. Cela, comment renforcer encore la difficulté? Tout se passe comme si il y a liberté dans les événements qui vont se déclencher. Moïse était libre d'envoyer ses explorateurs ou de trouver une stratégie qui fasse que seuls les membres de cette génération capables de conquérir le pays soient vraiment l'Israël de la conquête, les autres étant le résultat d'un tri, le déchet d'un tri, comme il y a eu différents tris à chaque dénombrement éventuel. Et malgré tout, il semble que derrière, il y ait une fatalité que Moïse habite ce qu'il sait devoir se produire inévitablement, puisqu'il demande protection particulière pour Josué. Et comme on le sait, c'est Josué et Caleb, le représentant de la tribu de Juda, retenez bien cela, et Josué, le représentant de la tribu de Manaché, de Joseph, qui vont être encore une fois, les rescapés des 1 cinquième, 2 douzième, sauf à peu près 1 cinquième, de ce tri du peuple d'Israël. Alors inévitablement, nous devons nous confronter à cette question difficile. Je laisse de côté tous les risques de calomnie dans la forme contre l'identité d'Israël, peuple rebelle, et il semble que les prophètes ne soient pas du tout gênés. Les expressions employées tant par Moïse que par les prophètes vont très très loin. Dor et Keshuv Tanto, Banim et Mumbam, je ne traduis pas, mais ce sont des expressions très très dures. Et malheureusement, c'est écrit dans la Bible, et pas seulement les théologiens chrétiens, mais tous les antisémites qui lisent la Bible s'en sont servis comme un arsenal antisémite, à côté duquel le Front National, il y a longtemps, il serait condamné par les tribunaux français. Ne serait-ce pas les tribunaux français. Quand ce sont les journaux israéliens, les milices israéliens, qui calomnient Israël, ils sont à l'abri. Mais quand ce sont les antisémites à l'extérieur, ils risquent d'être punis par les Israéliens. Et pour dire que nous sommes légalistes du sacré de je sais pas quoi. Bon, bref. Je pense que vous avez compris, moi aussi. Et alors, c'est un peu dans cette perspective que nous allons réfléchir à un certain nombre de sources. Eh bien, Shlach lecha anashim. Envoie pour toi, quant à toi. Vers tout vous, et qu'ils explorent, et Eretz Kanaan, le pays de Kanaan, je vous rappelle qu'il y a un thème d'étude important sur ce point. C'est le pays des Hébreux, mais il est appelé le pays de Canaan parce qu'il était, à l'époque du patriarche, conquis par les Cananéens. Mais il s'agit du pays des Hébreux, d'où le peuple d'où est issu. Abraham, Isaac et Jacob, par la suite, avaient été exilés dans la civilisation de Babel. L'histoire officielle d'Israël commence avec la sortie d'Abraham d'Urkazi, l'histoire réelle d'Israël commence avec le premier homme, avec une étape importante au niveau d'un des ancêtres d'Abraham, Hever, qui a donné l'identité hébraïque à cette souche, dans une des branches deviendra Israël, et dans toutes les autres branches, c'est les gens en rivalité d'Israël. C'est ce que nous découvrons dans ces études. Et de nouveau, nous sommes confrontés à cette même interpellation. Je reviens d'un voyage en France où le nombre d'articles et d'émissions à la télé qui contestent l'appartenance juive ou hébraïque de ce pays commence à devenir plus qu'inquiétant. En particulier, j'ai pas suivi parce que c'était vendredi soir, il y a eu une émission enregistrée à Jérusalem. Et il paraît-il, je n'ai pas vu, mais on me l'a dit, l'arabe qui parlait contestait l'identité hébraïque de Jérusalem.
Déjà, Rabin lui a très bien répondu en lui disant qu'il faisait du révisionnisme historique.
Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus grave que cela. Le seul fait que l'émission ait pu passer, une émission pareille, si Bernard Pivot. Je ne sais pas comment dire, avait un semblant de respect des lois israéliennes, jamais il n'aurait pu passer ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça signifie. Je dois dire d'ailleurs que Gavin m'a interviewé avant de faire son émission. Il m'a montré son script. Je lui ai dit que je ne participerais pas du tout à une discothèque de ce genre. Ah. C'est pourquoi j'y étais pas. Bon, je veux dire entre nous. Et je dois dire qu'il avait honte, mais enfin, il fait son métier. Non, il fait son métier, bien dans le métier. Mais, et je lui ai dit d'ailleurs à sa secrétaire de l'unité, je lui ai dit normalement, je devrais demander au ministère de l'Intérieur d'interdire votre émission. Il a reconnu que cette émission était préparée en France pour un pays étranger, eh bien, les tribunaux français ont pu être saisis de l'illégalité de l'émission. Je vais essayer. Et là, je n'ai pas arrivé, une indifférence totale. Ouais. Et donc, ça s'est proposé. Est-ce qu'il y a des raisons? La Kabbalah qui explique qu'est-ce que ça veut dire, l'esclavage, dans le sens, je ne veux pas dire mystique, mais dans le sens profond. Si je comprends bien, vous n'allez pas entendre avec ça. Hein? C'est dur.
Est-ce que vous parlez plus dans le micro?
Monsieur, on va demander le conseil. Ça va mieux, là?
Oui, ça va
bien. Bon, je ne vais pas commencer ce que j'ai dit déjà. Alors, on continue. Hachem a une autre Israël que je donne aux enfants d'Israël. De nouveau, je vais expliquer ça. Quand vous confirmez que ça appartient à Israël, si ça appartient à Israël, mais en fait, c'est la terre des Hébreux. Et c'est à Israël que la terre des Hébreux a été donnée. Pas si c'est suffisant. L'identité des Hébreux va être éprouvée dans différentes occurrences historiques et depuis Abraham le Hébreu jusqu'à arriver après deux sélections d'identité, indépendamment des autres, entre Abraham et Hever, à l'identité Jacob qui devient Israël. Pas tout Abraham, Ishmael, pas tout Isaac, et Esav, c'est Jacob qui devient Israël. Par conséquent, il est nécessaire de confirmer que cette terre réclamée par la famille d'Abraham, cette terre réclamée par les chrétiens, elle est réclamée par les musulmans, n'appartient qu'à Israël. C'est un sujet important, mais j'en profite, je crois, pour vous le signaler. Il faudrait 2 heures pour l'expliquer. Je pense que l'essentiel est donné dans ces indications. Ish Echad est matérotav. Un homme, qui touche la tribu, de leur père, Tishnachou, vous en verrez, comme Nassibahem, chacun étant un prince. D'ailleurs, ces explorateurs en question, c'était des gens de grand niveau. Vaishnachot Amoshe et Barparal al Piachem, et Moïse les envoya du désert de Paral al Piachem. Alors al Piachem, il ne faut pas traduire sur l'ordre de Dieu, puisque Dieu dit à Moïse l'Achlecha, si tu veux, comme il avait dit à Abraham l'Achlecha. Pour ton bien. Et si tu juges que c'est pour ton bien, envoie-les. Si tu juges qu'il ne faut pas les envoyer, ne les envoie pas. Mais Al-Pi Hachem, ça veut dire, je n'arrive pas à traduire directement, avec l'autorisation de Dieu. sur l'indication de Dieu lui-même. Quoi mâche, ils étaient tous des grands hommes, des personnalités. Alors regardez tout de suite ce que dit Rachid sur Kula Manashi. Et là, ça va être une des clés de notre problème. Regardez Rachid, Kula Manashi, toutes des personnalités. Vous y êtes sur Rachid ? Viens, allez. Kula Manashi, chaque fois que le texte de la Bible emploie le mot de Anashi, je ne sais pas, Michal, il y a un avec la vie, et la chose fâchée, c'est un langage d'importance, de Otachara, et à ce moment-là, Tchérimaï, ils étaient Tchérim. Avant d'aller plus loin, je veux dire un des commentaires à ce sujet, pour dire que ça a mené les commentateurs à dire qu'en fin de compte, la manière même dont ces enseignements nous sont formulés, c'est pour nous mettre en garde que lorsqu'il arrive une situation apparemment aussi invraisemblable que les chefs du peuple, ceux-là même qui avaient été les pionniers du sionisme de l'époque, ceux-là même ont été traîtres au projet d'Eretz Israël, qu'on ne s'étonne pas parce que c'est déjà arrivé. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Et donc, c'est valable avant même, je vous citais un commentaire, avant même de l'attribuer aux partis sionistes qui sont plus au pouvoir, qui ne sont plus sionistes, qui sont toujours au pouvoir, les commentaires désignent les autorités rabbiniques du peuple juif qui ont empêché la Aliya. Autant, ça aurait encore pu sauver les millions de nos frères. Je vous cite un commentaire du Moscovitch, qui s'appelle « Lui des Arabes », que j'ai étudié avec le Rav Kook, et qui est un commentaire que dont le père du Rav Kook disait énormément de bien. C'est un des rares rabbins de Gola qui a écrit, avant que l'État d'Israël n'existe, un commentaire sioniste. Et ils étaient de Roumanie. Il semble qu'il soit un peu de tendance raciste. Je ne sais pas si tu vas étudier ce commentaire. Il semblerait qu'il soit un peu de tendance raciste. Mais en tout cas, évidemment, sioniste avant la lettre. Et bien, voilà ce que dit ce commentaire. Je en âme, dirait, chez Indiana Katou, et il apparaît que le sujet du texte aura dimionique et hâtif. C'est pour nous permettre de nous appuyer sur l'image de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, mais pour l'avenir. Car Cher Bier, Meshorer, Dabarzé, lorsque dans le psaume on trouve que ça a été formulé de la manière suivante, Béomro, lorsqu'il dit Beignan Dorabitbar, au sujet de la génération du désert, Bayakom est doute Beyakom, et il s'est levé comme un témoignage à Jacob. Les Mahanis de Oudo à Haon, afin que la dernière génération sache, puisse approuver et raconte à leur fils, mais l'Orihuk et Avotam, ils ne soient pas comme leur père, Dor Sorer Moré, une génération de rebelles, Dor Loé Rimonibo, le rebelle, une génération qui n'a pas préparé son cœur. Je dirais tout à l'heure que, quoi qu'il en soit, ça ne servit à rien, puisque nous sommes témoins que ça ne sert à rien. Toutes ces exhortations qui nous ont accompagnés pendant des millénaires, et ça ne sert à rien. Quand les événements arrivent, on est frappé d'aveuglement. Et je pense surtout à ce que les dirigeants du peuple juif devaient savoir comme cause d'une Shoah éventuelle, et à part quelques rares exceptions, tout le monde avait les yeux fermés. Il y a eu des exceptions. Je voudrais vous en citer deux. Le Rav Shlag, j'ai étudié avec son fils, et il m'a confirmé que le Rav Shlag, le grand commentateur du Zohar, avait dû s'enfuir de Varsovie parce que dans les années 20, il commençait à préparer la Aliyah des Juifs de Pologne, Mais donc avec Malarin, on s'en va choix. Et on a fait une volée. Et imaginez aujourd'hui, en Israël, ceux qui prononceraient la catastrophe qui risque d'arriver, on les interdit de séjour, on les met en prison. C'est extraordinaire que personne ne réagit. Je pense au grand rabbin d'Israël, que le seul pays au monde où on ne peut pas prier sur les rues d'une synagogue, c'est à Jérusalem sur la montagne du Temple. Et ça se passait n'importe où. Il y aurait une émeute à la Knesset, mais en plein Jérusalem, le grand rabbin d'Israël ne fait pas la bouche. C'est une chose incompréhensible. J'ai dit les choses gentiment. Où on est arrivé. C'est la réelle. Quoi qu'il en soit, parce que dit le commentaire. Arrivé bas à la deuxième, c'était Jabotinsky lui-même, qui dans les années 20, allait à New York avec un Sefer Torah sur l'épaule pour avertir les juifs sionistes de New York que la Shoah se préparait. Et puis personne ne l'a suivi. C'est historique, ce que je vous cite de Jabotinsky. Le seul qui parle un peu comme ça, c'est Eric Chan. Harry Harvey, pour les chaises en fait, c'est Harry. Et alors, Harvey et Bal et la Mecque, ceci vient enseigner chez les Fichards que c'est pour cela, par Atakatou, que le texte a donné en détail. Ces louanges aux explorateurs et des louanges qu'ils étaient tzadikim avant. C'est clair? Là, on a fait. Les marins, Yoda, Dor Haron, afin que sache la génération dernière, Beth, c'est à voir Yeshua l'Israël, au temps où la délivrance arrivera pour Israël. Selon Adouim, que nous n'ayons pas foi, les hautains de Nachim, à ses personnalités, à Chayarandou, Naguet, Yugataretz, qui se lèveront pour s'opposer à la délivrance de la terre. Afinou, Iyum, Zakim, Ramou, Nirchevim, Betzadikim, même si on les considère comme des gens Kshevim et des Tzadikim. Afinou, Iyum, Rachim, Unsiyado. Et même s'ils sont les têtes, il faut venir à Rabbanim Rachim et le prince du pays, de la génération. Vafilou, Yahid Aleem, Yoné Atar Lomot, et même si Dieu lui-même, qui connaît les choses secrètes, peut témoigner pour eux, chez une tzadikim de l'homme, que sont les grands tzadikim. Et jusqu'où ça va? Vous ne croyez pas que ce sont des paroles en l'air? Il y a dans la Gemara de Sota, la fin de la Gemara de Sota, l'allusion sur texte, sur un commentaire des versets, qu'à la fin des temps de l'exil, il y aura de grands tzadikim, qui n'auront pas la foi. Des tzadikim qui n'ont pas la foi. Si ils donnent notre lecture du Talmud, c'est Talmud qui parle, c'est pas un texte, juste un rabbin sioniste, c'est Talmud lui-même qui parle. Les Talmudistes savaient qu'à la fin des temps d'exil, se reproduiraient ces événements invraisemblables, que les tzadikim seront les mécréants de la foi d'Israël. Et inutile de leur donner des noms. Je commencerai encore demain matin à énumérer les noms des grands rabbins des dernières générations qui ont empêché les Juifs de venir en Eretz Israël. Et ceux qui continuent. Et là, chez Harkar, mais que, après cela, il y a Gim et Clev Israël, Mivo et la. Ils ont empêché le cœur d'Israël de venir au pays. L'Orientan et Mumbaël, on ne leur donne pas confiance, qu'ils sont chez Yale Kalonam et Kalonam Agrim. Parce qu'en fin de compte, leur honte se dévoilera dans la honte des explorateurs. Alors, on ne peut pas ne pas être étonné d'entendre, surtout en Golan, mais ici aussi, les ramène anti-sionistes, dire pique-pente des explorateurs, alors qu'ils font la même chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une fois, j'ai donné une pèlerinage comme ça. Moi, j'étais stupéfait de découvrir ce qu'il faisait et il a fini par faire ça. Et c'est dangereux. Non, c'est authentique, mais vrai. Et bien voilà, donc, une première indication. Alors, en avant, le test qu'on vous a... Je ne sais pas pourquoi, c'est à travers le micro qu'elle est sourde. Hein? C'est marrant parce que c'est quand les gens n'entendent pas qu'on dit que la voix est sourde. Alors d'un côté, ça rassure. C'est-à-dire quelque chose de caractère invraisemblable de l'événement. Ceux qui devraient voir ne voient pas. Ceux qui devraient parler ne parlent pas, etc. Et le fait que ça, c'est connu, que c'est ça Israël, devrait rassurer. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que ça soit comme ça. Je veux que c'est clair ce que d'un côté, c'est rassurant, mais d'un autre côté, c'est plus que stupéfiant. Qu'est-ce que Dieu s'est choisi comme peuple? Je ne sais pas si vous voyez les implications de cela. Je ne sais pas si c'est ici, une fois, un Shabbat, mais je ne sais pas où, il n'y a pas très longtemps, je me concentre dans ma mémoire. Quelqu'un m'a posé une question concernant la Shoah.
Oui,
à Zaouchkati. À Zaouchkati, je voudrais le rappeler. En fait, il y a un problème triangulaire de la responsabilité entre le guillemets de la Shoah, les Allemands, les Juifs et le bon Dieu. Alors, les Allemands, personne n'ose mettre ça en question. Parce que ça risquerait de mettre en question la civilisation européenne. Et quand on est paniqué à l'idée de mettre en question la civilisation européenne, alors on préfère s'arranger. Et je crois que le roi, c'est Mitterrand, si vous avez suivi ce qui s'est passé les dernières années de sa vie, pour parler comme si c'était quelque chose de banal, une parenthèse dans l'histoire de l'Allemagne. Quelque chose de circonscrit, quelque chose de banalisé, quelque chose de condamnable, mais pas plus. Et surtout, ça j'en parle surtout avec les théologies chrétiennes, cette panique est très profonde, on s'est donné de mettre le christianisme en question. Parce qu'une civilisation qui a été éduquée par le christianisme pendant 2000 ans aboutira à ça, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais il y a, et surtout chez les Juifs, une panique de mettre en question la responsabilité des Allemands. On préfère toucher des indemnités des chambres. Et puis, les Juifs. Alors c'est invraisemblable que les Juifs soient responsables de ça. Donc il reste que le troisième, le bon Dieu. Et puis on se met à réfléchir, le silence de Dieu, l'écrivain de Dieu, où était Dieu Auschwitz, et vous avez des grands hommes contemporains, alors on n'en parle pas, qui se conduisent comme des gamins, comme s'ils n'avaient jamais rien appris de la Torah, de quel Dieu ils parlent. Mais un jour, vous arriverez peut-être à avoir le courage de les épanouir. Ce sont des gens encore contemporains. Je ne veux pas dire de nom, mais vous en avez peut-être en tête. Et alors voilà, on ferme le triangle. Alors, qui est responsable? C'est le monde. Seulement, on ne se rend pas compte, ce n'est pas les Juifs qui sont responsables. Et ils ont des halakhot qui nous cherchaient. Tous les Juifs qui ont péri dans la Shoah sont des Kedoshim. Et ils ont, droit au Alamava, sont guérina. Mais il s'agit des responsables de la communauté qui ont fait que les Juifs se sont laissés prendre au piège. Et en tout cas, les responsables laïcs, on ne leur demande pas de connaître le Talmud le soir, mais les rabbins, ça oui. Et en général, ces rabbins se sont inventés des boucs émissaires pour essayer de déculpabiliser et les Juifs, et le bon Dieu, et les Allemands. Alors les boucs émissaires, c'est les sionistes. Je ne sais pas si vous savez, arrive l'invraisemblance. Voilà, pour vous dire cela. Alors je répète que C'est très, très inquiétant comme problème. C'est tout à fait ailleurs qu'il faut chercher l'explication éventuelle. C'est que c'est le sort de l'humanité qui est mangé dans le sort de l'élection d'Israël. C'est le sort du monde qui est à travers l'élection d'Israël. Et dans ce cas, je n'ai pas trouvé de source de ce que je vais dire maintenant. Je l'ai dit sous forme différente plusieurs fois. Mais pour que l'histoire du monde soit juste, il faut que Dieu s'arrange pour mettre contre lui toutes les chances. S'il y avait un coup de pouce, que le peuple élu soit un peuple élu, eh bien, ce ne serait pas juste. Et d'ailleurs, nous avons un midrash qui en parle, je vais en parler tout à l'heure de ce midrash. Il en parle peut-être par ricochet. Pour que ce soit juste, que ceux qui arrivent au bout de l'histoire y arrivent comme les justes d'un véritable enjeu de l'histoire, il ne faut pas qu'ils martingalent. Vous savez que c'est une martingale quand on met quelque chose en jeu et qu'on connaît la règle du jeu, on va s'effoncer. Et c'est pourquoi, tout ça parce que Dieu a choisi le peuple le plus rebelle par nature à la Torah. Et tout se passe comme si c'est comme ça. Tout se passe comme si il n'y a que les Hébreux, enfin les Hébreux, il n'y a que les Juifs qui sont capables de comprendre la Torah des Hébreux, mais il n'y a que les Juifs qui s'y opposent. Je ne sais pas si c'est clair ce sujet. Je dis souvent sous autre forme, pour être rabbin, il faut être juif. Mais qu'est-ce que c'est un rabbin? C'est quelqu'un qui comprend la Torah des Hébreux. Il y a des juifs qui peuvent devenir rabbins et comprendre la Torah des Hébreux. Mais tout simplement, comme si ce peuple-là, c'est par définition, et Dieu le sait, la Torah le sait, il nous le dit, elle n'est pas très réfractaire à ce que ce soit simple. Il y a un texte très clair où Dieu dit, mais trouvez-moi une autre nation qui est aussi rebelle vis-à-vis de ses propres dieux que Israël avec le ciel. Et ça a été dit de différentes manières. Je vois si c'est clair. Et une complaisance comme ça. Et alors, très souvent, je vous ai expliqué une phrase que je dis souvent, surtout en diaspora. Je veux dire, à quel moment ça m'a paru le plus évident? Il y a des années, je me trouvais à Lyon. Il y avait la jeunesse juive qui avait organisé un défilé de protestation contre la Russie pour exiger que les Russes et les Soviétiques à l'époque laissent partir les Juifs en Israël. Et c'était les Juifs de Lyon qui défilaient à Lyon pour exiger des Russes qui laissent partir les Juifs en Israël. Alors je me trouvais dans bon, ce rassemblement qui était encadré par les CRS français. Et puis à la tête du cortège, j'avais des drapeaux français et israéliens. Et j'ai entendu un gendarme qui disait à son copain, tiens, voilà les Juifs qui défilent, voilà les Israéliens qui défilent. Il y a un juif qui sort du cortège et qui dit, monsieur, vous m'avez insulté, moi je suis français. Je me suis approché, sans me présenter, je dis, mais si tu es français, pourquoi tu te mets derrière un drapeau israélien, c'est un drapeau étranger? Il n'a pas su me répondre. Il dit, mais monsieur n'est pas anti-juif, il est français, lui. C'est ça le fond des choses. Les anti-juifs, ils ne sont pas tellement anti-juifs, ils sont ce qu'ils sont. Mais on les rend anti-juifs. Ça n'exclut aucun antisémitisme, mais c'est pour comprendre à quel point c'est inéchappable. Au point que, on se fait le luxe d'avoir de l'antisémitisme dans des pays dits de juifs. Au Japon, par exemple, il y a un antisémitisme effroyable, il n'y a pas de juifs. Mais c'est un antisémitisme d'importation qui vient de pays où il y avait des juifs. Où est-ce que je veux dire? Et alors, tout ça, c'est le même problème. Hein. Nous avons la prophétie des prophètes que les anti-juifs, vous donnez le modèle, c'est Babel, seront punis parce qu'ils ont exagéré. Dieu a choisi Babel, pas parce qu'ils sont anti-juifs, parce qu'ils ont exagéré. Ils savent, ils exagèrent. Et Dieu a pris Babel comme la verge pour nous frapper. Mais la verge sera brisée parce qu'elle a frappé trop fort. Bon, on ne dit pas ces choses au public, mais c'est les prophètes qui parlent comme ça. Et là, ça continue. Vous savez, j'arrive peine d'avant-hier, par exemple, la panique vu le score électoral du Front National. Mais rien ne bouge. Rien ne bouge. Et plus que ça. Bon, bref. Je referme la parenthèse. De quoi je parlais? Ah oui. Donc tout se passe comme si, pour que la règle du jeu soit juste, qu'il n'y ait pas une martingale, alors Dieu a pris le peuple le plus difficile comme instrument du salut du monde. Si ça marche avec lui, je ferai passer les autres. Et tout se passe comme si ça marche. Mais ça marche comme ça. Voilà, c'est passé suffisant. Je suis en plus de plus en plus persuadé que c'est vrai, parce que j'ai trouvé un minage dans le Talmud qui dit pourquoi la Torah est appelée Tushiga, chez Métaché, chez le Coran, chez Madame. Pourquoi la Torah est appelée la fatiguante? Parce qu'elle fatigue la force de l'homme. Et que si Israël ne se fatiguait pas par l'étude de la Torah, il avalerait le monde vivant. C'est ce que dit Talmud. Il nous faut une Torah, parce que si tu n'as pas le Talmud, Torah. Et alors, dans tous les cas, c'est les rabbins eux-mêmes qui ont dit ça. Il y a trois choses qui sont les plus terribles dans le monde. Chez les animaux, Azim, chez Babel, chez Bahayou, c'est le tigre.
Namer,
c'est le tigre.
Tigre monté.
Oui, chez les plantes, c'est les. Comment on appelle ce condiment là, français? Non, c'est pas le moutarde. C'est les. C'est vert.
Les quatre.
Hein?
C'est la fille.
Les quatre. Et chez les hommes, c'est Israël. Chez les hommes, c'est Israël. Si on cherche bien, on devrait dire les cactus. Ça va aller. Franchement, dit, non même. Ça va aller mal à l'âme. Et ça va aller, ça va aller. Bien. Et alors, voilà ce que le verset va nous dire. Et voici le nom des personnalités que nous avons envoyées pour explorer le pays. Verset 15. Vaïkra Moshe, Yahushua Rabino, Yahushua. Et Moïse a nommé Yahushua, fils de Nun, Yahushua. J'expliquerai que Paris a dit fils de Nun, et pour un pas Ben Nun, mais Ben Nun, ça serait un jour on étudiera ça, le signe des poissons, c'est pas rien. Eh bien, mais il y a surtout, on verra, il y a surtout cette indication qui va être prise par le Talmud. Alors vous avez ici, là, Vaïkra, ok.